Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je suis porté.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, première émission de 2014 avec l'équipe qui est au complet. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Aujourd'hui, alors on va commencer fort, hein, parce que ça va être du fric, de la mode et du cul. C'est ça, voilà, c'est l'accroche. Alors, quel film se cache là-dessous?
Alors moi, c'est le cul, donc ce sera un Nymphomaniacs de Lars von Trier.
Et puis toi, Manu?
C'est le fric, et puis bon, un peu le cul quand même, hein, avec le Loup de Wall Street, le nouveau Scorsese.
Oui, oui, il paraît qu'il y en a pas mal, oui.
Il y aura donc un blind test autour de la finance, de la bourse et de l'argent d'une manière générale qui accompagnera la chronique.
Et puis on va débuter avec la mode plutôt, l'élégance. C'est parti.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française?
Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé?
Comment vous sentez-vous maintenant?
Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui.
On le sait, il n'y a eu qu'un seul Yves Saint-Laurent, mais au moins deux longs métrages, hein, sur lui sortiront cette année. Alors il y a celui de Bertrand Bonello en automne et celui de Jalil Lesper qui sort ce 8 janvier. L'un a eu la bénédiction de Pierre Berger, le compagnon de Yves Saint-Laurent, l'autre en a eu les foudres. Et à la vue de la copie rendue par Jalil Lesper, on se doute bien que son projet a été soutenu par le compagnon du créateur de mode puisque son personnage donne de la voix off et nous raconte donc l'histoire de son Yves. Il est dans un temps presque présent au moment où il doit vendre la collection de tableaux qu'ils ont eu en commun et Berger est forcément dans les flashbacks, dans le passé, qui représente la majeure partie du film, qui, précisons-le, ne raconte alors pas toute la vie de Yves Saint-Laurent, mais simplement de 57, où il avait 20 ans, jusqu'à la fin des années 70. Si Berger est si présent dans le film, c'est que sans doute il a compté pour Yves Saint-Laurent, hein, mais surtout parce que le parti pris de Jalil Lesper est de nous montrer Yves Saint-Laurent, sa vie, son œuvre, sous l'angle de son histoire d'amour. Alors on ne doutera pas de ce qui liait Yves Saint-Laurent et Berger, mais on pourra quand même douter de l'intérêt que cela peut avoir de tartiner une bonne partie du film sur leur relation, même si celle-ci fut cruciale pour Yves Saint-Laurent avec la création de la marque homonyme.
Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Tu comprends, je vais mourir d'ennui.
Faut que tu te reposes. T'es encore fragile.
Oui, mais toi, tu l'es pas. Toi, t'es fort. Hein ? Il faut ouvrir notre propre maison de couture.
Alors le défaut des biopics, c'est parfois d'en faire trop autour d'une personne ou de tomber dans l'anecdotique. Ici, Jalil Lesper, qui avait l'embarras du choix, ne nous épargne pas grand-chose, ni la dépression, ni les fêtes entre amis, ni la prise de stupéfiants, ni les coucheries ou les descentes dans les backrooms. Alors si Yves Saint-Laurent avait des airs de psychorigide, il savait aussi se dérider facilement et chercher le plaisir quand son compagnon, plus raisonnable, aurait préféré qu'il soit plus sage. Alors Pierre Berger passe donc pour le rabat-joie de service quand Yves Saint-Laurent, avec son coup de crayon, passe pour un artiste, un visionnaire, un tantinet fragile.
Pierre, tu connais mon amie Victoire?
Je connais votre image sur papier glacé. Bonsoir.
C'est la femme que j'ai toujours voulu épouser.
Non, arrête avec ça. Bon, tiens, je préfère les voir calmes.
Elle est jalouse? Ça t'amuse?
Je suis pas si gentil.
Après le compagnon entrepreneur qui gère correctement les affaires, mais qui est également un amant raisonnable et bienveillant, cet extrait nous permet d'entrevoir un autre personnage, c'est la muse du créateur, car il est tout de même question de mode, d'artisanat, de féminité, sans que la facette documentaire soit exploitée. Peu d'éléments sur les rapports qu'il entretenait avec les petites mains, ou alors ça m'a complètement échappé. Ce dont on est certain, c'est qu'il invitait ses amis dans la Villa Majorelle à Marrakech, une maison incroyable dont on fait à peine le tour du propriétaire, à peine voit-on les jardins luxuriants et l'intérieur, mais on reste un petit moment quand même dans la piscine où tous fumaient du haschich.
Le principal trait de votre caractère?
La gentillesse, je dirais ça.
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis?
La joie.
Quel serait votre plus grand malheur?
Perdre ses cheveux.
Oui, c'est pas faux. Être chauve.
Il est un aspect de Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert qui fait mouche, c'est le jeu et la métamorphose de Pierre Ninet, hein, qu'on a encore entendu là. Tel un caméléon, il s'est emparé de la diction, de la gestuelle et des attitudes du couturier et les restitue à l'écran sans excès. Alors qu'il soit jeune ou plus vieux, la transmutation opère. Charlotte Lebon ne s'en sort pas si mal et Guillaume Gallienne fait bel effet. Et heureusement, sinon ce biopic aurait pu être un peu indigeste. Ce qui n'empêche qu'on pourrait quand même regretter de ne pas avoir compris de quoi se nourrissait finalement Yves Saint-Laurent pour ses créations. Peut-être Mondrian, nous montre-t-on un moment, évidemment. Alors, on voit Berger qui vend les meubles et les tableaux. On devine qu'il a aimé ça. Enfin, l'art, le monde de l'art, sa relation avec les écrivains, d'autres artistes, eh bien, c'est à peine esquissé. Il me semble qu'on voit quand même quelques... Zizi Jeanmaire, notamment. Enfin, voilà, on voit quelques artistes apparaître, mais sans plus. Et donc, eh bien, on ne sait pas ce qui l'a porté à créer. Alors, Yves Saint-Laurent était un maniaco-dépressif génial et infidèle. C'est presque ce qu'on a envie de retenir de cette copie rendue par Jalil Lespert. Je ne sais pas si toi, tu es de cet avis, Marine, puisque tu as vu aussi.
Oui, on sent en effet quand même que ça a été fait avec l'appui de Pierre Berger. Donc après, on ne sait pas non plus dans quelle mesure il a un peu transformé l'histoire à son goût. C'est ça aussi. Mmh. Parce que bon, quand même, sur les deux, il n'en reste plus qu'un, c'est lui. Donc non, mais après, grosse performance d'acteur. Oui. Et c'est vrai que tout le monde va parler de Pierre Ninet, mais je pense que Gallienne, justement, qui est beaucoup plus en retenue, est excellent, vraiment excellent. Parce que justement, il fait vivre un personnage qui était plutôt dans l'ombre justement de Yves Saint-Laurent, et ça aborde aussi pas mal cet aspect-là des choses. Qu'est-ce que c'est que d'aimer un artiste, voire un génie? Comment est-ce qu'on vit justement dans l'ombre de quelqu'un quand c'est la personne qu'on aime, etc. Pas mal. Après, ce que j'ai trouvé un petit peu agaçant et ce qui malheureusement se retrouve souvent dans les biopics, c'est les petites stars françaises qui viennent faire leur petite apparition, genre Marie de Villepin qui a une phrase dans tout le film. Enfin, c'est bon, ça c'est assez anecdotique et c'est pas franchement intéressant parce que ça va pas vraiment au fond des choses.
Ouais. Bon, sinon le casting effectivement est intéressant. En tout cas, les trois premiers rôles. Enfin.
C'est un défilé en fait, voilà, pour rester dans le thème. C'est juste un défilé de stars. Bon.
Et on attend quand même la version de Bonello, effectivement, qui n'a pas eu l'appui de Pierre Berger. Et là, ce sera peut-être un peu plus libre. Et au moins, en même temps, c'est assumé de la part de Jalil Lespert, puisqu'il y a une voix off de Pierre Berger. Donc, ça veut dire que c'est vraiment sa vision de Yves Saint-Laurent qu'on voit à travers ce film. En tout cas, ça sort aujourd'hui.
Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance. J'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Et on enchaîne avec Nymphomaniacs. Alors, dès les premières images du film sur lesquelles résonne un morceau de Rammstein, celui qu'on vient d'entendre, nous sommes plongés dans de la pure poésie Lars von Trierienne. Une femme, Charlotte Gainsbourg, gît au sol dans une ruelle sordide, les flocons de neige tombant sur son corps, roués de coups. Ceux qui ont bonne mémoire y verront un parallèle évident avec la première scène de Antéchrist, qui s'ouvrait sur la même Charlotte Gainsbourg et dans la même ambiance neigeuse. Un homme, joué par Stellan Skarsgård, qui est d'ailleurs un fil rouge de la filmographie de Lars von Trier, la découvre et la ramène chez lui afin de la soigner, permettant à la jeune femme de lui raconter son histoire. Si la première scène est virtuose et que Lars von Trier a toujours su soigner ses prologues, on se rappelle notamment des premiers plans de Mélancolia, tournés à la caméra fantôme. Mais une fois passée cette scène d'exposition, eh bien, non, il apparaît comme évident que ce n'est pas encore avec ce film que Lars von Trier se fera des amis. Il réalise même ce que l'on pourrait considérer comme son film le plus « détestable », entre guillemets. Mais comme j'aime bien aimer ce que l'on aime détester, bah j'annonce d'entrée que je lui ai quand même trouvé un certain intérêt et même des qualités manifestes. Une fois le décor planté, la jeune femme, Jo, donc, entreprend de raconter à son sauveur comment elle en est arrivée là. Autoproclamée nymphomane, elle tente de remonter jusqu'à son enfance pour expliquer son parcours et ses déviances. Ici, le propos est clairement affiché, comme l'annonce l'affiche. « It's not about love », il ne sera pas question d'amour, sauf qu'en fait, eh ben si, on y revient toujours. S'ensuit donc une discussion qui durera plus de 4 heures pour le spectateur, puisque nous n'avons là que la première partie d'un film tronqué, contre l'avis d'ailleurs du réalisateur, autour de la sexualité et de la morale. une sorte de débat théo-sexologique qui peut paraître quelque peu surfait dans sa construction très sérieuse, en décalage total avec la trivialité du sujet. Ça rappelle parfois, j'ai trouvé un peu, le monde de Sophie. Vous savez, cet ouvrage vulgarisation philosophique qui repose en fait uniquement sur un dialogue entre un maître et son disciple. Enfin, construit donc en quatre parties, le film tente de théoriser sur le sexe par des métaphores, pouvant aller des plus romantiques, on compare notamment la sexualité à un morceau d'orgue dans sa construction, au moins glamour, comme la pêche à la mouche. Ça peut paraître étrange, mais c'est très bien explicité dans le film, je vous rassure. Oui, cette construction est parfois un peu maladroite, voire lourdingue, avec des montages alternés qui appuient le propos, parfois sans subtilité. Mais le jeu des comédiens, tous excellents, vient apporter de la crédibilité à des dialogues qui auraient pu devenir risibles. De plus, le film n'est pas dénué d'humour et d'un certain décalage qui lui évite de sombrer dans la rhétorique prétentieuse. Lars von Trier ne peut pas s'empêcher également d'aller dans la provocation, parfois gratuite, en insistant dans Nymphomaniac sur les dérapages qu'on lui avait déjà reprochés auparavant. Par exemple, lorsqu'un des personnages se lance dans une diatribe sur l'antisémitisme, alors est-ce que c'est une manière maladroite de revenir sur l'incident qui lui avait coûté sa présence à Cannes ? Est-ce que c'est un sujet qui le préoccupe vraiment ? On ne comprendra pas davantage le but de cette digression, mais il est évident que le réalisateur ne peut pas s'empêcher d'appuyer là où ça agace, tout comme il joue également ici sur l'ambiguïté entre exploration de la psychologie féminine et misogynie. Plastiquement parlant, Lars von Trier semble avoir trouvé un équilibre sain entre la radicalité des exigences du dogme, pas d'éclairage artificiel, pas de maquillage, etc., et l'esthétisation ultime de la photographie que l'on trouvait dans Mélancolia. Son Nymphomaniaque est assez lent et complaisant, mais il est loin de faire honte à sa filmographie, et que l'on aime ou que l'on déteste, eh bien, forcé de constater que le réalisateur est l'un des rares qui continue et qui essaie toujours de réinventer son propre cinéma après 25 ans de carrière.
Mmh. Effectivement, donc, tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire.
On verra à faire des propositions formelles encore actuellement.
Avec une caméra qui est en même temps très présente, alors c'est très formel effectivement, mais les séquences sont hyper bien construites. Je trouve qu'il prend des risques finalement dans chaque séquence. C'est pas comme des films assez conventionnels où on va avoir 25 plans pour voir une action. Non, lui, il sait exactement les liens qu'il peut faire avec des mouvements de caméra entre les personnages pour montrer telle chose. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et puis comme tu le dis, ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'amusement finalement dans ce film.
Oui, c'est pas si c'est pas sérieux.
Et non. Avec un début merveilleux qu'il avait, je sais plus dans quel film il avait, peut-être Dancer in the Dark, qui commençait dans le noir effectivement. Non, c'était bien ça. Vous avez le même souvenir que moi ou pas?
Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas.
Je ne sais pas non plus.
Donc c'est un début en tout cas. Enfin voilà, comme si on rentrait dans une expérience. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi le cinéma de Lars von Trier.
Oui, complètement.
Et au moins.
C'est une expérience nouvelle d'ailleurs à chaque film. C'est là où c'est fort. C'est qu'il ne se répète pas.
Et puis là, en plus, si vous restez au générique de fin, et d'habitude on y reste, vous avez une espèce de teasing de la partie 2 qui va sortir.
De toute façon, chez Lars von Trier, il faut toujours rester jusqu'à la fin du générique parce qu'on peut apprendre plein de choses dedans. Oui, ah bon. Notamment ceux qui lui avaient reproché d'être misogyne. S'ils étaient restés jusqu'à la fin du générique de Antéchrist, ils auraient vu qu'il remerciait des gens pour les recherches en misogynie. explicitement, ce qui veut bien dire que voilà, le mec a fait des recherches exprès quand même sur le sujet de la misogynie, ce qui change forcément le propos.
Et juste pour dire la question par rapport à son soi-disant antisémitisme ou ses problèmes avec le nazisme, c'est depuis son premier film Element of Crime, et notamment je crois que dans Europa, Lars von Trier a appris que son grand-père ou son arrière-grand-père, je ne sais plus exactement, était juif et qu'il a des origines juives, et je crois que c'est un thème qu'il travaille depuis le début en fait. Donc je sais pas si c'est que de la provocation, il y a une part de provocation
il en
joue aussi, mais je crois que c'est une question qu'il le travaille beaucoup depuis le début.
Non, puis il a même raison d'en jouer, enfin parce que moi je trouve ça un peu excessif comme ce qui s'était passé à Cannes.
Oui.
Mais bon, on poursuit Cinérama.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Alors, depuis quand un film de Martin Scorsese ne nous avait-il pas autant emballé depuis près de 20 ans, à l'époque bénite pour le New Yorkais, qui réalisait alors son chef-d'œuvre, pour moi, le démentiel Casino, épopée flamboyante dans l'univers du crime et du jeu à Las Vegas. Alors, entre échecs artistiques, comme Kundun, où je trouve le très décevant Gangs of New York, et des films de commande plutôt réussis, Hugo Cabret ou Shutter Island, le cinéma de Scorsese cherche depuis quelque temps un second souffle. Bizarrement, cette inspiration déclinante coïncide avec l'absence de son acteur fétiche, De Niro, qui lui aussi d'ailleurs n'a plus tourné un bon film depuis, depuis Casino. Si vous parcourez sa filmographie, c'est assez...
Parce que je sais qu'il joue dans plein de comédies que je ne vois pas.
Alors peut-être que Hit qui est sorti la même année, mais sinon il n'y a plus un grand film avec De Niro. Enfin, c'est assez étonnant, hein. C'est une carrière vraiment déclinante. Scorsese pense néanmoins avoir trouvé la personne de DiCaprio, puisque c'est la cinquième collaboration, une forme d'alter ego, un comédien idéal capable d'égaler certaines icônes issues des années 70. Alors jusque-là, moi j'étais plutôt sceptique, mais dans Loup de Wall Street, DiCaprio est impressionnant. Son jeu en sur-régime insuffle au film un rythme d'enfer. Il embrase l'écran et apporte un élan à une mise en scène qui est pourtant déjà très très inspirée.
Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à trois près, ça aurait fait 1 million par semaine. On est en train de se faire un nom.
Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance ?
Oui, la finance, c'est vendre, acheter...
Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux...
Est-ce que ceci était légal ? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire.
On bosse pas pour toi, mec.
T'as mon fric scotché sur les minibars, alors techniquement, tu travailles pour moi.
Un problème, papa ?
Oh, Dieu.
FBI.
Je vous propose un petit alcool ?
Non, on nous interdit de boire en service.
Si, je bête. So follow me, you could be the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. Comment ça marche ce truc ?
Il y a une cible avec un énorme dollar.
Il lance dessus et il colle.
Oui, oui, ils sont doués pour ça, ok ? Ils sont bâtis pour être lancés comme des fléchettes.
1, 2, 3 ! Stop.
La sécurité.
La sécurité. La sécurité d'abord. Absolument. On ne veut pas avoir mauvaise réputation.
Avec moi.
Alors, adapté d'un roman autobiographique de Jordan Belfort, le film relate l'ascension, puis la chute d'un jeune courtier à l'orée des années 80. Addict au sexe et à la drogue jusqu'à son point de rupture, Belfort ne vit que pour l'ivresse du plaisir, d'une manière quasi orgiaque. L'ultime orgasme, en dehors de ses galipettes constantes avec les putes, étant de plumer ses congénères et amasser des millions en une journée. En s'opposant donc à la pseudo-rigueur d'un Wall Street ou au sérieux papal du très réussi Margin Call, le Loup de Wall Street fonce tête baissée dans tous les excès qu'il est censé dénoncer. Il s'agit d'une grosse farce ludique et addictive, une comédie brillante et luxuriante qui ne s'interdit aucune outrance, qui affiche sa vulgarité de façon décomplexée. Pour autant, le miroir de Scorsese qu'il nous tend n'a rien de glorieux. Au contraire, il filme pendant 3 heures des abrutis qui ne vivent que pour l'argent, le cul et la défonce, des enveloppes creuses qui s'agitent dans un enfer doré. Alors le plaisir qu'il prend à filmer ce microcosme n'a pourtant rien de complaisant. Hein. Le film peut même se lire comme une introspection d'un cinéaste ayant connu un peu la vie de Belfort dans les années 70, puisque lui aussi a vécu une déchéance en perdant d'ailleurs sa femme, ses enfants, ses amis et même son travail durant quelques années. Donc très conscient de ce que l'argent procure comme plaisir, Scorsese ne se pose pas en moraliste, mais en un satiriste corrosif peignant un monde de surface où toute trace d'humanité disparaît. Voilà, derrière un dispositif qu'on peut trouver un peu écœurant, hein, voire effrayant, Le Loup de Wall Street est extrêmement ludique et jouissif. Écrit avec brio par un des scénaristes de la série Des Sopranos, les dialogues sont vraiment drôles et aussi inventifs que chez Tarantino. Certaines situations frisent la comédie burlesque un peu à la Billy Wilder et Scorsese réussit quelques séquences d'anthologie. Notamment dans un délire quasi kafkaïen, hein, Caprio qui, après absorption d'une substance ultra puissante, il rampe comme un lézard défoncé pour atteindre sa voiture. Hein. Alors c'est une séquence que je trouve géniale. On dirait qu'elle est tirée d'un, je sais pas si vous connaissez, d'un roman de Hunter Thompson, hein, le type qui a écrit Las Vegas Parano. Mmh. Et c'est une, enfin moi je c'est hallucinant, c'est assez inhabituel de voir Scorsese s'amuser autant. Voilà, c'est un portrait au vitriol d'un ramassis de crétins, hein, se prenant pour les maîtres du monde. Le Loup de Wall Street possède néanmoins, bon, bah, les qualités de ses défauts. Hein. La fascination non feinte de Scorsese pour le monde du crime et de la mafia manque un peu. Aucun personnage là ne touche, n'intéresse par leur dimension. Ne serait-ce que par leur dimension symbolique. Dans Casino, Scorsese filmait De Niro comme un dieu certes pourri jusqu'à la moelle, mais un dieu quand même. Et Sharon Stone, aussi déchue soit-elle, était émouvante. Ici, rien. Caprio apparaît au mieux comme un petit malin, venu s'éclater et profiter de la crédulité des gens, qu'il ne verra donc jamais. Hein. Au pire, comme un imbécile, qui ne sait même pas se retirer au bon moment, persuadé d'être un gagnant toute son existence. Le personnage de Jonas Hill est très bien, mais ressemble beaucoup à Joe Pesci, en fait, au personnage qu'incarnait Joe Pesci dans Casino et Les Affranchis. Voilà, le film calque la structure narrative et le rythme de Casino sur un mode mineur et clinquant. Mais Scorsese s'amuse, hein, il ne se prend pas au sérieux et franchement, ça fait du bien. Je crois qu'il n'avait pas réalisé un film aussi léger et euphorique depuis After Hours presque. Hein. Je trouve que c'est vraiment, à 71 ans, réaliser un film comme ça, aussi bouffon et léger, c'est assez étonnant.
Je pense qu'il y a énormément de choses à dire vraiment sur ce film. Bah, il y avait notamment, il me semble, c'est un critique du New York Times qui disait qu'en gros, vous pouviez avoir deux réactions face à ce film. Soit vous en sortez comme si vous avez pris une grosse trace de coke, c'est-à-dire complètement galvanisé, surexcité. Soit au contraire, vous en sortez vraiment écœuré par côté clinquant. Et en gros, ça définit votre rapport à l'argent. Moi, personnellement, c'était un peu les deux, en fait. Enfin, je trouve qu'à la fois, c'est un peu écœurant et à la fois, oui, c'est hyper, hyper rythmé. Il y a beaucoup de souffle, notamment grâce à ces discours, en fait, qui viennent rythmer tout le film, avec lesquels il fanatise complètement ses foules et qui, là, sont des gros, gros moments vraiment de performance d'acteur où DiCaprio excelle.
Et puis Scorsese, il joue sur... Il joue beaucoup sur l'idée de fascination-répulsion. C'est pour ça qu'on peut avoir il y a une ambivalence constante entre notre réaction, à la fois écœurée et aussi complètement pris par cette espèce d'énergie qui transcende le film.
Et bien donc, nous allons maintenant enchaîner sur le
Blind
Test, justement. Ah. Spécial finance, fric et bourse. Grosso modo, premier extrait.
Vous croyez que je plaisante ? Je ne plaisante pas. Je suis millionnaire. C'est curieux d'entendre ça, hein ? Je vous rassure, c'est aussi curieux de le dire. Seulement, c'est un fait, je suis un putain de millionnaire. Et devinez mon âge ? J'ai 27 ans. Vous savez ce que ça fait de moi ? Un vieux, les gars, un senior. Dans cette boîte, il n'y a que des employés qui ont environ votre âge, pas le mien. Heureusement, je suis super doué pour tout ce qu'on me demande ici. Sinon, je serais out. Vous êtes tous le sang neuf. Vous allez vous faire un max de fric. Vous allez devenir les futurs gros bonnets de cette boîte. Vous avez l'air d'avoir les dents longues. C'est ce qu'il faut. Celui qui dit que l'argent a l'odeur du mal n'aura jamais un sou en poche. Que ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur regardent le putain de sourire que j'affiche. Il est assez expressif. Vous voulez des détails ? Très bien. Je conduis une Ferrari, une 355 cabriolet. Quoi d'autre ? J'ai une maison de rêve à South Fork. J'ai tous les gadgets qu'on peut imaginer. Est-ce qu'il y a de mieux, les amis ? J'ai plein de liquidités. Bon, maintenant, vous voyez que c'est possible. Tout ce qu'on vous demande pour ça... Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous défoncer le cul pour cette boîte. On veut des gagnants ici, pas des minables. Le minable marche à la pendule. Le minable veut connaître tout de suite ses dates de vacances. Les vacances ! Les gens qui bossent dans cette boîte ont un objectif, devenir foutrement riches. C'est tout. On n'est pas là pour se faire des amis. On n'est pas là pour sauver les lamantins. Vous voulez des vacances perpétuelles ? Allez dans l'enseignement, c'est plus cool.
Voilà, hein, si vous voulez être en vacances tout le temps, soyez prof. C'était, non, ce n'était pas Wall Street, ce n'est pas Margin Call, et ben non, parce que je ne l'ai pas mis, Vincent, parce que j'en ai marre que t'en parles à chaque émission de ce film, donc il n'y sera pas.
D'accord.
C'était Les Initiés, un film de Ben Younger avec Ben Affleck, c'était lui en fait, on entendait qui fait le rôle du méchant aux dents longues, et également avec Vin Diesel, mais qui n'est pas là dans cette scène, c'était avant en fait qu'ils se mettent à faire des rôles extrêmement musclés. Deuxième extrait.
Il faut qu'on t'aide, mon pote, avant que ça n'aille trop loin. Il te faut un coup de main. C'est toi qui tiens les cartes. Et si tu gardes tes vêtements, tu peux faire presque tout ce qui te passe par la tête. Tu veux démissionner? Démissionne. Tu veux faire du pain? Ainsi soit-il. Il n'y a qu'une mauvaise façon de réagir à cette situation de merde et tu t'y accroches encore comme un malade.
Mais je t'ai dit que je m'excusais.
L'hôtel t'a fait flipper, continue à pisser sur ce dossier et ils te transformeront en cul-de-chat.
Je ne sais même pas de quoi
je fais de mon mieux pour te couvrir. Je leur dis que tout va bien, que tu vas bien. Et je leur dis qu'il ne faut pas s'en faire, que tout le monde est cool. J'ai même dit que c'était le prix du génie à tous ceux qui étaient prêts à m'écouter. Et je me réveille un matin et on me dit que tu appelles cette fille du Wisconsin et que tu trafiques des documents et Dieu seul sait quoi d'autre.
Comment
il
ne
te
restera
rien. Ils vont tout te prendre.
Ils vont tout te prendre. Ah, bah apparemment. Non.
Ouais, bon, c'est pas facile.
Ils ont pris les bonnes réponses aussi. C'était Michael Clayton avec George Clooney, comme vous l'entendez là. Donc oui, là en effet, il n'était pas vraiment question de bourse à proprement parler.
C'était
mais
un
c'est
avocat d'affaires,
histoire, voilà, c'était ouais. Des histoires d'avocats d'affaires plus ou moins véreux, histoire de gros sous, etc. Troisième extrait.
On avait prévu de se voir.
Je passais par là.
Ah, alors t'en as profité, c'est ça, c'est gentil. Je m'en réjouis. Ça faisait un bail. J'ai lu la nouvelle, bien sûr. Ou est-ce que j'ai vu ça à la télé? Je sais plus.
Quoi?
Quoi? Le mariage. C'est étonnant que tu ne me l'aies pas dit.
Pas si étonnant que ça.
Pas si étonnant. Deux grandes fortunes, comme un de ces fameux mariages de convenance dans les vieux empires d'Europe.
Sauf que moi, je suis un citoyen du monde avec des burnes new-yorkaises.
Alors, c'est Juliette Binoche.
Film, oui, un film mais... relativement récent qui se passe complètement autour d'un trader, d'une seule journée dans la vie d'un trader qui pense que c'est bientôt la fin du monde. Oui, c'est Cosmopolis, oh. C'est une bonne réponse. Je vous rassure, moi-même, j'aurais trouvé aucun des films que je vous ai proposés aujourd'hui. Et on va terminer avec le dernier extrait.
Ben, moi, je me sens assez défavorisée hein, avec mon licenciement.
Non. Bien sûr. C'est vrai qu'avec leur délocalisation, vous êtes comme une femme immigrée dans votre pays.
Oui, c'est vrai. C'est à peu près ça.
Voilà, mais en tout cas... Chez moi, vous êtes ici comme chez vous.
Merci. Et si je suis votre formation, à votre avis, je vais pouvoir trouver du travail assez rapidement?
Bon, chez Cali Propreté, on ne garantit pas forcément directement du travail. Mais ce qu'on garantit, c'est savoir-faire.
Ok. Et donc, je peux suivre votre formation?
Oui.
Ah.
Mais je peux vous demander un petit service?
Bah oui, bien sûr.
Voilà, c'est... C'est à cause des autres femmes qui sont en formation. Si vous pouvez, par exemple, prendre un accent.
Prendre un accent?
Si ça vous gêne pas.
On a trouvé,
laborieux. Hein.
Alors, après le manche du pain tenté par Manu, il a finalement trouvé la bonne réponse.
Qui ma était, part du gâteau.
Voilà, manche du pain, ma part du gâteau. On y était presque, en effet, où il y a un film avec Gilles Lelouch. D'ailleurs, qui est un petit peu spécialisé ces dernières années en rôle de gros con, de trader. De trader, puisqu'il a également fait un film qui s'appelle Crash, aussi sur... Crash.
D'accord, ok.
Enfin, pardon, oui, je confonds avec le Cronenberg. Je pense que ça n'était
quand c'est une voiture, c'est un crash.
Oui, c'est vrai.
Quand c'est la bourse, c'est un crack.
Crack qui, d'ailleurs, a été un énorme bide. Enfin bon, bref. Voilà.
Merci, en tout cas, pour ce blind test. Donc, 1 sur 4. Bon.
2 sur 4.
Moi-même, je vous dis, je n'aurais rien trouvé. Oui. Non, il avait trouvé Cosmopolis.
Ah oui, bravo. Allez, c'est la suite.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et donc c'est l'agenda avec demain au Diagonale à ciel ouvert de Mariana Otero, c'est à 20h05, il y aura aussi la case de l'oncle Spot, c'est de Spock, Field in England, donc c'est à 20h30 demain à l'Utopia, L'amour est un crime parfait des frères Larieux, c'est à 20h15, ce sera vendredi au Diagonale.
Que nous rencontrerons d'ailleurs.
Voilà, les frères Larieux, oui, on aura le plaisir de les rencontrer. Les Anonymes, film de Pierre Scholler, c'est à l'Utopia le même soir, vendredi 10 janvier. Et puis lundi 13 janvier, L'Escale de Kaveh Bakhtiari, c'est donc là encore au Diagonale. Et puis on n'oublie pas la soirée Kino. Manu.
Soirée Kino, hein, mardi 14, à la salle Pétrarque.
Avec un film préparé par Manu, hein, écrit.
Oui. Il sera terminé normalement. Hein,
un peu plus d'optimisme.
Que j'ai écrit et joué, voilà. C'était sur le thème de la proscrate.
La prostitution, très bien.
Non, la proscramisation.
Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Mais ce sera écrit de toute façon. Ce sera écrit, le dit, oui. Ouais.
Personne ne le dira.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendieu. Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou.
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Et voilà. Et cette soirée, d'ailleurs, c'est Salle Rabelais. On l'a pas précisé, 20h30 hein, pour
non, l'horaire. Non, c'est pas Salle Rabelais, Salle Pétrarque.
Ah, ça a changé.
Salle Pétrarque, 20h30.
Ah. Ok, merci pour ces précisions.
À la semaine prochaine.
Et oui, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Avec Henri Talva, qui nous rejoindra pendant une demi-heure.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.